Dans l'ordre des choses, Luc, on reprend, est-ce qu'on reprend cette organisation avec vivre en famille autrement, perspective éducative et choix communautaire? Donc on attend Dominique, on accueille Dominique Tisba, Luc et Solveig pour discuter autour de ce titre. Tu vas peut-être expliquer comment, pourquoi vous avez choisi cet intitulé « Vivre en famille autrement ». Tout un programme. Alors, comme je viens
vivre,
de
vivre en famille autrement,
dire,
c'est ça ?
Vivre en famille autrement, voilà. Point d'interrogation. Vivre en famille autrement ?
L'idée de la session, c'était justement qu'on a eu beaucoup, beaucoup de réponses à l'appel à com qui était plutôt centré sur le politique. Et Luc et moi, on était soucieux, comme on parlait d'idéologie, de ne pas faire parler que le politique, parce qu'on voulait parler de choses au sens plus large. Et du coup, je vais parler de ma rencontre avec Tisba. Tisba,
bah, très bien.
Tu te souviens pas, en fait.
Si, je m'en souviens.
Tu te souviens. En fait, avec Tisba...
18e, je crois, non ?
C'est ça. On était dans un réseau, en fait, Squeak, enfin un réseau sur les squats.
Qui existe toujours.
Qui existe toujours, hein, qui est hyper dynamique, mais vraiment sur des problématiques de squat qui sont un peu différentes des problématiques de punk, même si ça se recoupe par certains aspects. Et Tisba, moi, j'avais été très frappée parce qu'en fait, c'était un punk de la campagne. Donc, j'imaginais pas qu'on puisse être un punk à la campagne. Voilà. Donc, depuis, on a fait une journée punk des villes, punk des champs, et on a vu que des punks à la campagne, en fait, il y en avait même plus qu'on pensait. Et Tisba, bah, il va nous en parler, hein, il avait des enfants, et on sait, moi, je me rappelle.
Je les ai toujours.
Tu les as toujours, ouais, ça dure longtemps.
Ça a été vendu.
Et en fait, on avait pas mal discuté éducation des enfants, et j'étais assez frappée. Enfin, on se rejoignait beaucoup sur plein de choses. Moi aussi, j'ai 3 enfants. Donc, je vais vous présenter tous les deux, parce que nous, on se connaît pas, enfin, depuis ce matin maintenant. Mais donc, Tisba a amené Dom, qui n'était pas venu en ville depuis un certain nombre d'années, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, je vais commencer par toi, puis on fera parler Dom. Donc, on va faire comme si on faisait un entretien. Donc, tu vas nous dire ton âge, d'où tu viens, ce que tu as fait avant d'arriver ici. Voilà, et donc, vas-y.
Bah, donc, moi, c'est Tisba. Je vais avoir 37 ans bientôt. J'ai 3 enfants. Mon parcours, je pourrais raconter peut-être après comment j'en suis venu au punk,
oui,
voilà, pas tout de suite, mais sinon j'ai un parcours universitaire aussi, puisque j'ai fait une. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, puisque j'ai fait une thèse moi sur les squats à Paris et Berlin-Ouest entre 1945 et 85. Et d'ailleurs, j'ai déjà intervenu
sur le squat des villes.
Sur les squats des villes, voilà. Alors, juste pour corriger, parce que. Si j'habite actuellement relativement à la campagne, moi j'ai vécu toute mon enfance en ville et j'ai vécu pendant 5 ans à Berlin. Donc c'est le. Par contre, j'ai quitté Berlin pour m'installer à la campagne et c'est là que dans un tout petit village où je suis arrivé complètement par hasard, puisqu'il fallait qu'on trouve un propriétaire qui nous accepte avec nos non-revenus. Et puis dans ce village, en me promenant avec mes enfants, j'ai croisé ce gars-là. Qui est donc Dom, et puis on s'est rencontrés plusieurs fois, mais on ne s'est pas vraiment trop parlé. À l'époque, il avait la crête, là, il ne l'a pas aujourd'hui, mais voilà. Et puis un jour, j'ai vu dans ce tout petit village un panneau avec marqué concert punk avec le fléché, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même fou, moi j'arrive complètement par hasard dans un tout petit village en Bretagne. Et puis déjà, il y a un autre punk parmi les habitants. Et puis en plus, dans ce village, il y a un festival punk, en fait, j'ai appris qu'il y avait un festival punk. Et donc, je suis allé lui parler un jour, et puis j'ai dit, vous allez au concert. On pourrait y aller ensemble, et puis bah voilà, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Et donc c'est moi qui ai proposé à Solveig et Luc de venir aujourd'hui avec Dom, parce que je pense qu'il a aussi des trucs à raconter sur sa vie. Je te passe la parole.
Du coup, pareil, ton âge, d'où est-ce que tu viens? Pourquoi tu habites dans le même village que Tisba?
Salut, déjà. C'est pas évident pour moi de me retrouver avec un micro comme ça, parler devant des gens. Donc j'ai 40 ans, je m'appelle Dom. Voilà, la vie est belle, oui. J'ai 2 enfants et je suis arrivé à la campagne, un peu comme lui, parce que on avait 3 chiens et 4 chiens, et en fait on savait pas, on cherchait un propriétaire qui nous accepte. Du coup, il nous a dit ouais, c'est bon, je vous loue et tout. Du coup, on a pris la maison, tac tac. Et voilà, c'est vraiment pas évident, micro.
Mais si, tout le monde est gentil. C'est parfait.
Et sinon, mon parcours, fils de prof, dans les mêmes écoles que mes parents. Donc déjà, c'était pas évident. Et à 12 ans, les seuls qui m'ont accepté dans leur famille, c'était les punks. Donc au lieu d'aller à l'école, je traînais avec les quepons et tout. Et À 18 ans, je me suis retrouvé à la rue, du coup, je suis allé à Bordeaux. Et là, j'ai découvert un peu la drogue, les flics, tout ça. Les vrais punks, la vraie rue, les squats. Et sinon, voilà, quoi. C'est pas évident, vraiment pas.
Moi, je savais que les vrais punks étaient à Bordeaux.
Il y en a partout.
Je l'ai pas dit, mais bon.
Il y en a partout, des capons, c'est ça. Le punk est pas mort, quoi.
Ouais.
Du coup, je voulais revenir aussi... Vous avez beaucoup parlé de l'histoire du punk et tout, mais vous avez pas parlé, à mon avis en tout cas, du punk présent. Des quepons qui le vivent tous les jours. Le mec, rien que pour avoir une crête sur la gueule tous les jours, faut déjà l'assumer, quoi. Et moi, ça fait des années que là j'ai des cheveux, mais bon, que j'ai une crête, quoi. Et c'est un signe de ralliement. C'est le fait que tu reconnais que les gens, ils sont différents, et en même temps, ils sont tellement différents entre eux que chaque personne est différente et qu'il faut cultiver la différence. Et la différence crée un ralliement. C'est paradoxal, mais... Et le fait d'avoir une crête ou de ne pas en avoir, il y a beaucoup de gens là qui n'ont pas de crête et tout, mais qui sont quand même des putains de punks. Vous êtes tous des sales punks. Sinon, on ne serait pas là, quoi. Et c'est de l'humour punk, ça, justement, de dire sale punk. Ça, c'est punk. Et voilà, je sais pas. C'est la première fois pour moi.
Alors, si on parle juste un peu, parce que c'était ce dont je voulais parler, un peu de...
Ouais, la famille.
La famille. Voilà, c'est quoi, pourquoi...
Et puis les choix de vie. Hein,
et puis les choix de vie, ouais. De manière générale. Pourquoi on va à la campagne? Alors, j'ai bien compris que c'était aussi parce qu'on vous acceptait là-bas, sans préjugés, etc. Mais moi, en fait, on a eu une rencontre assez exceptionnelle, mais pas forcément au sens à Rennes, avec Tisba, et le recteur de Rennes, qui ouvrait la journée sur la scène punk à Rennes. Donc, tu avais des problèmes avec la scolarisation des enfants, parce que comme ils ne seront pas scolarisés, tu passais pour... la secte, je sais pas laquelle, donc t'étais sous surveillance. Et le recteur, en plus, a fait un discours en disant que oh, la scène punk, c'était super, c'était les trois punks à chiens qui traînaient devant la gare de Rennes. Donc il y a une espèce de tollé dans la salle parce que tous les mecs ont dit bah non, pas du tout, nous on traîne pas, on n'est pas des punks à chiens et pourtant on est là. Enfin, c'était assez. Il y a une photo de toi avec le recteur que j'aime beaucoup parce que c'est toute la. En fait, tous les préjugés en fait sont sur cette photo de ce que ça peut être punk, élever ses enfants, etc. Est-ce que tu peux un peu nous parler en fait du choix de famille que tu as fait?
Ouais. Moi, j'ai eu mon premier enfant assez jeune. Enfin, j'ai 22 ans, ce qui est pas le parcours classique aujourd'hui. Puis j'étais en train de faire mes études, donc c'est et en fait moi, c'est tout de suite venu ma priorité, c'est-à-dire tout est passé dans le vivre tranquillement en fait et puis grandir soi-même avec les enfants et puis toutes les autres choses passer à côté. Moi j'ai mis 10 ans à faire ma thèse et puis je faisais rien à côté, c'est-à-dire on vivait de des allocs comme ça. Ma compagne ne travaille pas non plus, voilà. Et puis on a bougé à Berlin, pays dans lequel l'école est obligatoire, et en fait on avait beaucoup de mal avec ça. Et puis au bout d'un moment, on a fini par dire non, en fait, nous, à l'école, on n'en veut pas. Moi, j'ai eu un parcours plutôt heureux à l'école, mais ma compagne, non. Et puis, on s'est posé les questions. Et donc, on a choisi de venir s'installer en France et d'assumer complètement de ne pas scolariser les enfants, ce qui est parfaitement autorisé, mais qui implique effectivement d'établir un rapport de force, en fait, parce que si on ne veut pas se faire bouffer et contrôler sans arrêt, voilà, faut établir ses limites, faut les assumer, etc. Puisqu'il y a des contrôles qui sont obligatoires si on veut rentrer dans les clous. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que on a des problèmes récurrents. Et j'avais sauté sur l'occasion, voilà, de croiser le recteur pour dire ça fait 5 ans qu'on vous envoie des courriers, que vous dites que vous répondez simplement pas, et qu'en même temps, vous nous courez après pour nous demander des comptes sur l'instruction, etc., sur l'éducation des enfants. Et que nous on veut montrer aussi par notre exemple qu'il y a des choses qui sont possibles différemment.
Et
de
du
l'école.
Coup concrètement, ils sont élevés comment ou instruits comment tes enfants?
Alors après ça bouge. Moi j'ai 3 enfants, le plus vieux est à 14 ans, le plus jeune est à 6. Et puis en fait ils vont à l'école quand ils ont envie, c'est-à-dire on les inscrit quand ils en font la demande, et puis on les désinscrit. Par exemple là je peux raconter, donc Mes trois enfants étaient scolarisés toute l'année dernière. Et puis ma fille, ma deuxième, elle s'intéresse à plein de trucs, donc elle fait plein d'activités. Et puis on lui a dit, mais tu vas, en gros, tu vas jamais y arriver à faire toutes les sports, machin, nanana. Et on lui a dit, mais de toute façon, s'il y a un truc en trop, ben, ce sera le collège. Donc si tu n'arrives pas à suivre le rythme, eh ben, on te retirera du collège. Et ben, donc c'est ce qui est arrivé, en fait. Au bout d'un moment, elle en avait marre. Elle était fatiguée le soir. Elle en avait marre. Elle s'ennuyait au collège, ça ne l'intéressait pas. Elle préférait apprendre d'une autre manière. Et donc on l'a désinscrit du collège. Et comment ils apprennent, ben, en fait, ben, c'est un peu l'école de la vie. C'est-à-dire ils vont voir ce qui les intéresse. Et puis c'est comme ça qu'ils apprennent, en fait.
Et c'est compliqué à assumer, surtout quand on a fait des études.
Ouais, mais après, là, pour répondre à ce que disait Laurane dans le film tout à l'heure, c'était le slogan de demain, c'est « sortez de vos maisons ». Ben, en fait, nous, on est très, très casaniers. Après, parce qu'on aime bien, on est plongé dans les livres, etc. On rencontre des gens, etc. Mais nous, on aime bien... en tout cas, moi, j'aime bien être enfermé dans mon bureau, faire mes trucs, faire de la musique, nanana... c'est compliqué. Ben en fait, c'est compliqué si on pose des questions et qu'on sait pas y répondre. Je pense que c'est ça.
Passer la parole.
Et Dom, toi, Dom, ouais, voilà. Tes enfants, ils sont élevés comment ?
Bah moi, je les mets à l'école parce que je me dis que l'école va leur apporter ce que moi je peux pas leur apporter. Mais à côté de ça, dès qu'il y a une question, bah il y a une réponse. Et si moi j'ai pas la réponse, bah c'est magique, hein, y a Internet. Et du coup, beaucoup de musique, les bouquins, même s'ils n'aiment pas trop ça, mais j'essaye de les mettre dedans. Et surtout de la musique, quoi. Et même si des fois ils n'aiment pas le son, parce que des fois ça peut être un peu bourrin, quoi. Mais il y a. Ouais, la musique, les paroles. Même si moi, c'est pas trop mon milieu, mais mon fils, il aime bien le rap. Pourquoi pas? Beaucoup de quepons, beaucoup de trucs qui discutent. Et puis, l'éducation, pour moi, c'est un jeu de questions-réponses. Quoi. Ton gamin, il est en devenir, il se pose des questions sur la vie. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font une erreur que moi, je fais pas. C'est qu'ils oublient qu'eux, ils ont été enfants. Quoi. Et moi, je reste un gosse. Du coup, j'éduque mes enfants comme leur père. Mais comme leurs potes aussi, quoi. Du coup, s'il y a des limites à pas dépasser, ben je leur dis oh, c'est bon, là, je suis ton père. Tu manques de respect, là, c'est pas cool. Parce que des fois, ma fille, elle s'amuse à me dire non, 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 non. Et au bout de 3 minutes, je dis c'est bon, là, je suis ton père, on rigole plus. Et elle me dit ok, papa. Et après, pour moi, les enfants, c'est chacun sa vision de la vie, du punk, des enfants. Mais je pense que c'est un ressenti. Comme la musique, c'est un vécu. C'est quelque chose que tu dois vivre pour le comprendre, comme un orgasme. Faut le vivre pour le savoir, quoi.
Et du coup, vous espérez tous les deux que vos enfants, ils en tirent quoi de cette éducation punk ?
Mon père était un punk.
L'autonomie, je pense.
L'autonomie, l'autogestion. Du coup, moi, en tant que fils de prof, je me suis servi de l'éducation que j'ai eue. Et je me suis servi de ce que j'ai considéré comme les erreurs de mes parents. Trop de liberté. Ma mère, quand elle me voyait traîner avec des punks, au lieu d'être à l'école, elle me traitait de petit con. Alors que moi, en tant que père, putain, moi, je vois mon gamin faire ça, je l'attrape par la peau du cul, quoi. À 12 ans, ta place, c'est à l'école. C'est pas en train de boire des bières sur un banc, quoi. Et du coup,
là-dessus, vous avez capté qu'on n'est pas d'accord.
Oui, c'est le point que j'allais relever. Manifestement, il y a une posture qui est différente.
Ah ouais, bah c'est pour ça qu'on est potes aussi.
Ouais. Tu mets la différence.
Ouais. Mais justement, je pense qu'il faut se servir des erreurs que nous, on considère des erreurs de ses propres parents, des erreurs que nous, on a fait quand on était enfant, pour se servir de ça, pour ne pas faire les mêmes erreurs avec nos enfants. Et en leur expliquant qu'eux, ils vont sûrement faire des erreurs qu'il ne faudra pas faire avec leurs enfants, et ainsi de suite. C'est le cycle de la vie, quoi.
Et la dernière question que je pose avant de laisser la parole à la salle, c'est En étant punk, ça vous paraissait naturel d'avoir des enfants? Parce que très souvent, quand on fait du terrain, moi j'avais même lu un article assez terrifiant il y a 3-4 ans sur la stérilisation des jeunes femmes punk qui refusaient d'avoir des enfants. Est-ce que ça vous paraît, dans le fond, punk d'avoir une famille, des enfants?
Bah, de mon côté, c'était pas... Mon fils, il n'était pas voulu. On était dans la drogue et la drogue fait que ça enlève les règles. Du coup, on s'est rendu compte au bout de 5 mois qu'elle était enceinte. On s'est dit, bah vas-y, on arrête les squats, on arrête la cam. Et vas-y, on assume, quand on est parents, c'est cool, on est des vieux maintenant. Oui. Et voilà, du coup...
T'as dit que t'étais encore un enfant aujourd'hui.
On est passé de l'autre côté, on est devenus des parents. Quoi. Et quand t'es un zonard et que tu te retrouves parent, c'est plus ta vie à toi qui est en jeu, c'est la vie de ton gamin. Du coup, tu vis plus pour toi, tu vis pour ton môme. Quoi.
Ça t'a sauvé d'avoir des enfants?
Ah, carrément, ouais. Plus de drogue. La vie est belle.
Et toi, Tisba, c'était un choix d'avoir
des enfants? Non, pareil, le premier, c'était pas voulu. Après, c'est... Je sais pas si c'est ça, et punk, du coup, se laisser porter par ce qui vient, quoi, simplement, en fait. Donc, quand il était là, on s'est pas posé... Enfin, si, on s'est posé des questions, mais en fait, c'était tellement évident. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Je pense, ouais. Et puis, ouais, c'est ça, de l'assumer par rapport aux autres, aussi, d'être... d'avoir une crête, d'être étudiant et d'avoir un gamin.
Assumer.
Et même d'aller à la fac avec son gamin, c'est... C'est rigolo.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Oui.
C'est sûr, Baptiste. Vivre autrement, en famille, etc.
Éducation.
Baptiste, tu as une...
Attends, Michel, on va demander...
Ouais.
Je voulais te demander, vas-y. J'ai bien compris la démarche anti-institution qui est la tienne dans la déscolarisation des enfants.
Ouais.
Donc c'est une démarche, pour le coup, idéologique au sens...
Ouais.
C'est un choix d'adulte d'être contre un système établi qui est l'éducation nationale telle qu'elle existe en France. La question que je me pose, c'est... En plus, tu disais, donc, tu complètes en expliquant que tu scolarises, entre guillemets, tu instruis tes enfants, vous instruisez en tant que parents.
En fait, non.
Vous éduquez, alors, ou tu as choisi un mot à la maison.
Vas-y.
Je termine juste j'essaye de comprendre comment tu t'organises. Et la question que je me pose, c'est que par rapport à la socialisation des enfants, donc vous êtes à la campagne, et est-ce que tu dis que vous restez beaucoup à la maison, comment ils se font des potes? Comment ils rencontrent d'autres enfants et sur l'altérité et sur le côté, cette question-là que je me pose, parce que je comprends la soustraction à l'institution et donc ta volonté de construire un système et de transmettre différemment, ce qui pour le coup dans une démarche totalement alternative, je comprends. Et après, je voulais savoir comment tu à la fois socialises les enfants par rapport à leur classe d'âge et en même temps, comment est-ce que en étant soustraits au système, ils peuvent avoir la construction d'un esprit critique pour lutter eux-mêmes contre le système établi? Parce que ça me semble être la démarche de...
Alors, juste pour un point sur la loi, effectivement, puisqu'on a... Donc, c'est l'instruction, en fait, qui est obligatoire en France.
Ouais.
Aujourd'hui, ça va être élargi de 3 à 18. Enfin, en tout cas, c'est en projet. Jusqu'à maintenant, c'était 6 à 16. Et puis, donc, on peut choisir de scolariser ou pas ses enfants. Et nous, on a fait le choix donc, de ne pas les scolariser, mais de ne pas les instruire, en fait, de manière... On n'a pas fait l'école à la maison, voilà. Nous, c'est-à-dire qu'on partait, enfin on est convaincus de ça, et ça se vérifie, c'est-à-dire que si, après on a peut-être du bol avec nos enfants, quoi, ça marche pour eux en tout cas, ils sont autonomes dans leur gestion, c'est-à-dire ils vont à la découverte du monde, etc. Et tout ce dont ils ont envie, on en essaie de leur donner la possibilité. Alors la question de la socialisation, ça me fait rigoler parce que du coup je me retrouve là devant le public, et en même temps c'est exactement les questions qu'on nous pose tous les jours, et la socialisation. Pour moi, je pense que la socialisation à l'école, c'est un truc qui est construit, en fait, qui n'est pas choisi. Et du coup, tu es en relation avec... Enfin, ce n'est pas la vie. Parce que jamais dans le monde du travail, on est confronté avec 30 personnes qui ont exactement le même âge que toi. Tu vas à la rencontre de différents, donc adultes, enfants. Normalement, ça doit être naturel.
T'as l'école, après t'as les études, après t'as le boulot.
Disons que je suppose qu'ils se socialisent très bien juste dans le cadre familial, voilà. Avec une fratrie et des parents.
Alors non, après, il faut...
La question d'Estelle, ça dépassait peut-être le cadre scolaire, c'est-à-dire que la socialisation, c'est les groupes de pères, c'est les rencontres
c'est ça,
que
tu
peux faire par ailleurs, je suppose.
Puis après, une fois que les enfants, ils font marcher leurs jambes et qui sont autonomes dans la. Voilà, qui vont à l'extérieur, après ils se gèrent et puis.
Par exemple, ils ont des pratiques musicales, par exemple. Ouais. Enfin, je veux dire,
oui.
Et l'occasion de rencontrer, éventuellement même de jouer en groupe.
Mais carrément.
Voilà, ça c'est peut-être un truc sur le.
Après, voilà, il y a des réseaux qui fonctionnent. On aurait besoin de. Qui fonctionnent peut-être un peu moins justement dans les campagnes que dans les villes. Voilà. Ouais, pas de souci.
Et donc sur la musique, tu peux nous en dire un mot ou c'est.
Ah oui, bah c'est. Alors moi aussi, j'ai les faits. Je suis fils de prof et en plus fils de dans le milieu musical, mais la musique savante, donc musique classique et jazz, etc. Et je sais peut-être pour ça, mais mes deux enfants plus âgés ont été intéressés pour jouer de l'orgue. Donc voilà, bah, je les ai inscrits au conservatoire. Ils font de l'orgue. Ils font de l'orgue dans la basilique même de la ville dans laquelle j'habite. Et c'est ça qui leur plaît, quoi. Par ailleurs, moi, je suis batteur dans un groupe de Quepon.
François, Manu après. Manu alors d'abord, puis François.
Bon. Merci. Je suis docteur en sciences de l'éducation, du coup avec Luc et Solveig qui sont mes co-directeurs. Du coup, je travaille carrément sur ces sujets-là, de la transmission dans les réseaux punk, et je fais des entretiens avec des personnes plutôt de ma génération, mais j'essaye d'élargir. Et du coup là, mes premiers résultats, je me rends compte qu'en fait, donc ça rejoint ce que tu dis, ce que tu as l'air de penser, c'est que les compétences sociales à l'école sont pas forcément acquises par les personnes qui sont considérées comme punk. Et je m'aperçois que ils essayent de les apprendre un peu dans les parcours, moins institutionnels, du coup dans le punk. Donc tout ce qui est vie de tournée, tout ce qui est vie communautaire, etc. Mais par contre, je me pose la question aussi que c'est des personnes qui intériorisent toutes les normes scolaires, qui intériorisent toutes les contraintes dues à l'école, etc. dans un premier temps, donc qui sont adaptées à la culture scolaire, et qui dans un second temps, après, se détachent un petit peu durant l'adolescence, en écoutant la musique, etc. Et donc je me pose la question, je voudrais savoir quel est ton avis là-dessus. Est-ce que, justement, pour se détacher du système scolaire, à un moment donné, créer son propre parcours, s'émanciper, est-ce que il n'y a pas une phase obligatoire d'intériorisation de ces normes-là et du coup de passage à l'école ? Voilà, c'est la question que je me pose. Je me fais un peu l'avocat du diable, du coup, là-dessus, mais je voudrais savoir ton avis.
Bah pour le coup, ils l'ont vécu, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, voulu aller voir à quoi ça ressemble à plusieurs reprises. Hein. Donc, y a une fois, ça a duré 15 jours, il y a une fois, ça a duré un mois, il y a une fois, ça a duré un an. Et ils ont compris comment ça marche l'école et ça les a pas convaincus. Après, ils sont contents de rencontrer des gens à l'école, de garder des copains après par la suite. Mais après, j'ai pas compris toute ta question. Si tu pouvais plus la cibler.
Ouais, pardon, je suis un peu dans le truc. En fait, ma question c'est de si on veut, si on est en réaction par rapport à un système, par rapport à des choses où justement on se sent pas à l'aise, et donc là le cadre éducatif c'est un bon exemple.
Est-ce qu'il faut l'avoir intériorisé
et voilà, c'est ça en fait.
Pour mieux lutter contre, par voilà. Exemple.
Et est-ce que à travers.
Après, ça c'est les théories justement. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'a fait l'encyclopédie anarchiste la fin du 19e, Sébastien, je sais plus quoi. Sébastien Faure, voilà. Où justement sur l'éducation, il disait justement l'instruction obligatoire, c'est les lois Jules Ferry 1880-82. Et Sébastien Faure, les anarchistes à l'époque, ils disaient il faut sauter sur l'occasion, il faut aller dans les écoles, parce que c'est une fois qu'on sera instruit qu'on pourra mieux lutter contre le système établi. Aujourd'hui, le monde, il a changé. Et je pense que, voilà, s'instruire et puis comprendre le monde, comment il fonctionne aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'école pour ça. Et d'ailleurs, moi, je suis prof aussi. Par ailleurs, à côté, on s'en rend bien compte que l'école telle qu'elle est, c'est l'ancien monde, quoi. Donc ça marche plus pour l'éducation. On a plus besoin de l'école pour savoir vivre aujourd'hui.
Et quand tu dis je suis prof à côté, tu peux préciser, tu es.
Ouais, bah,
tu enseignes dans un cadre alternatif
ou... Non, pas du tout. Dans le cadre privé même.
Privé
et catho.
Non, mais
on assume
ça nous aide à à comprendre et à questionner aussi.
Je te laisse richesse. Parler, mais il y a François qui voulait poser une question.
D'ailleurs, je peux préciser, juste puisque j'ai dit que j'étais prof dans un collège catho actuellement, il faut savoir que, parce que je suis contractuel, j'ai pas le concours moi, et je pense d'ailleurs que ça sert à rien d'avoir le concours, puisque ça permet de pas avoir le salariat, etc. Et il faut savoir que j'ai été recruté justement parce que on savait que mes enfants n'étaient pas scolarisés et on s'est dit que j'avais une approche différente et que voilà, ça peut permettre.
T'enseignes quoi ?
L'histoire géo. Et je suis responsable aussi d'un dispositif pour prévenir le décrochage scolaire et essayer de garder les élèves.
Ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint des questions que Manu pose aussi dans sa thèse.
En gros, tes compétences punk t'ont permis de faire quelque chose complètement...
Tu reconvertis un capital contre-culturel dans des projets d'avenir, ou potentiellement, je traduis.
Oui, voilà. Bah, après, j'ai pas la...
C'est exactement ça.
Je poursuis pas le projet de mettre la nitroglycérine là-dedans.
François.
Ouais, merci pour vos deux parcours qui sont antinomiques presque, mais intéressants. Avec ce retour, mais vous venez quand même d'un creuset sociologique parent-professeur, et je voulais savoir quel est le regard des grands-parents, parce que très souvent dans une famille, les grands-parents ils servent à quelque chose quand ils sont là, et des oncles, des tantes, et du milieu social ambiant, parce que parfois les enfants recherchent des modèles ailleurs quand ils ne trouvent pas non plus une réponse quelque part, quoi, au sein même de la famille nucléaire.
C'est ce que tu viens de dire, quoi. Enfin, moi, le problème, c'est que j'ai manqué de limites, tu vois. L'idée de l'anarchie, l'idée de la liberté, tout ça, je l'ai appris avec mes parents, qui étaient profs de français tous les deux, qui m'ont appris les bouquins, la culture de la différence. Les Noirs, les Arabes, les PD, on s'en fout, c'est des humains, quoi. Et l'amour, quoi. Et du coup, moi, je me suis tourné vers les quepons et tout. Et j'ai oublié ta question.
Non, c'était... Le regard de vos enfants par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont... dans chaque histoire personnelle, les enfants ont toujours un regard, soit tendre, soit autre.
Je pense qu'il ne faut pas...
Ou un modèle.
Mon père est décédé, mais il m'a ouvert l'esprit, sachant qu'il ne m'a jamais mis de baffe.
Je parle pour tes enfants.
Mes enfants, d'accord. Justement, je leur ouvre l'esprit.
D'accord.
Et je mets de la musique... Si ça leur plaît pas, on s'en fout, on met autre chose. D'accord. Et ou des bouquins, ou une question. Et c'est vrai que là-dessus, nous, notre génération, on n'avait pas ça. Mais là, il y a Internet. Du coup, tu as une question, bah paf, tu as la réponse. Quoi. Et du coup, tu vois, enfin, je vais pas dire les flics qui font leur boulot, mais moi, perso, j'ai vécu des violences policières. Et quand mon fils, quand on parle des gilets jaunes et tout, que mon fils, il me demande, mais ils sont pas censés nous protéger ? Je lui dis, si, ils sont censés. Et là, je lui explique qu'est-ce que ça veut dire être censé faire quelque chose. Tu vois, chaque mot, pour moi, c'est peut-être une déformation de fils de prof, mais chaque mot est important. Il y a l'étymologie, il y a tout ça, et chaque mot est important. Et du coup, quand tu dis une phrase, quand tu dis quelque chose, il faut savoir ce que tu dis, il faut savoir de quoi tu parles. Quoi.
Je suis assez d'accord avec toi, moi. Je pratique un peu la même chose avec mes enfants.
Et voilà.
Il va falloir qu'on avance, parce que l'après-midi est hyper dense.
Alors, c'est que le début d'un grand débat, hein, vous l'avez bien compris. Merci à Dom.
Merci.
Enfin, c'est l'essentiel. Et à Tisba, merci vraiment, bravo.
Merci.
Bah, tu peux garder ton micro.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour ces témoignages et questionnements sur... la dimension éducative et familiale, des pratiques et des transmissions.